9, le 8 et le 4. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Tout de suite, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui, quand l'Angleterre avait le plus grand empire de l'histoire. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce qu'était l'Empire britannique il y a à peine un siècle. Avec 33 millions de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants, le tiers de la population mondiale, il était le plus grand empire que l'histoire ait jamais connu. Du Grand Nord canadien au sud de l'Australie, de Hong Kong aux Bermudes en passant par Singapour, Calcutta et le Cap, il rassemblait une mosaïque de peuples, de langues et de religions différentes, placées sous l'autorité des souverains britanniques. Parmi eux, celle qui pendant plus de 60 ans a incarné la toute-puissance d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. La reine Victoria, dont tous les sujets sur tous les continents du monde connaissaient le visage imprimé en 1840 sur les premiers timbres de l'histoire.
C'est un échantillon du nouveau timbre postal qui va être édité. Qu'en pense votre majesté ?
Elle est à son avantage là-dessus.
Ce timbre sera distribué dans chacun des pays de l'Empire britannique. Ma chère, partout où le soleil se lèvera, il y aura votre image.
Sauf en Chine, non ? Alors, messieurs, il me semble que nous avons la responsabilité d'ouvrir au monde le dernier grand territoire de tout l'Orient. Qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Et ce, durant tout le 19e siècle.
Philippe Chassaigne, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans cet extrait de film, on vient d'entendre la toute jeune reine Victoria, à peine couronnée, qui est à la veille de la guerre de l'opium, et qui allait permettre à l'Angleterre de s'installer à Hong Kong, un tout petit morceau, le tout petit morceau d'un empire immense. Dans un livre, La Grande-Bretagne et le Monde, publié chez Armand Collin, vous rappelez que cet empire était gigantesque, même par rapport aux empires espagnols, français ou portugais.
Absolument. Bon, déjà, au XIXe siècle, l'Empire espagnol n'existe pratiquement plus. Et les deux puissances qui auraient pu concurrencer, qui ont voulu concurrencer la Grande-Bretagne sur le terrain de la conquête coloniale, c'était la France et l'Allemagne. Mais quand on regarde les chiffres, on voit très bien qu'il n'y avait aucune mesure, aucune comparaison possible. En 1914, l'Empire colonial britannique, c'est 33 millions de kilomètres carrés, donc 400 millions à peu près d'habitants. Au même moment, la France, c'est 10 millions, l'Empire colonial français, c'est 10 millions de kilomètres carrés, 48 millions d'habitants. Quant à l'Empire colonial allemand, c'est 3 millions de kilomètres carrés, 18 millions d'habitants, donc vraiment très peu de choses.
Alors, cela dit, l'Angleterre a construit son empire en deux temps. Il faut le rappeler, elle a perdu une grande partie de cet empire à la fin du XVIIIe siècle, avec les 13 colonies américaines devenues les États-Unis. Et malgré tout, au XIXe, cette expansion coloniale reprend. Et cela, dites-vous, presque malgré les Anglais colonisent, presque malgré eux, sans aucun plan d'ensemble. Quelles étaient les raisons pour lesquelles s'est faite cette conquête au XIXe siècle ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer de part et d'autre d'une date qui est vraiment charnière pour l'histoire de l'Empire britannique au XIXe siècle, la date de 1876, qui est la date à laquelle la reine Victoria a été proclamée impératrice des Indes. Et en simplifiant les choses, on peut dire qu'avant 1876, il y a vraiment une colonisation qui se fait au coup par coup, de façon pragmatique, et essentiellement pour protéger les routes commerciales qui mènent à l'Inde. Et puis après 1876, on assiste à ce que j'appelle un impérialisme raisonné, l'avènement d'un impérialisme raisonné, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la volonté de consolider ce qui a été acquis au cours des trois premiers quarts du siècle. Alors, L'Inde, c'est important parce qu'effectivement, lorsqu'en 1883, les colonies d'Amérique deviennent indépendantes, deviennent les États-Unis, il y a un recentrage effectivement de l'Empire sur l'Inde, d'où l'importance très grande de cette partie du monde.
Oui, Philippe Chassaigne, évidemment, on n'a pas le temps de faire l'inventaire de l'ensemble des colonies britanniques. La seule liste de leurs noms prendrait à peu près toute l'émission. Mais c'est vrai, quand vous assistez sur l'Inde, c'était, il faut le rappeler, ce qu'on appelait le joyau de la couronne. Or, au début du 19e, les Anglais n'y sont présents que sur les côtes. Et brusquement, à partir des années 1820-1830, ils commencent à coloniser l'intérieur. Pour quelle raison ?
Alors l'Inde, c'était d'abord jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, d'abord une succession de ports à partir desquels les marchandises indiennes partaient vers la Grande-Bretagne. Et puis, progressivement, les Britanniques ont voulu tout d'abord assurer la solution de continuité entre les établissements qui étaient parfois assez espacés les uns des autres. Ils ont donc conquis l'ensemble des côtes et après ils sont allés progressivement vers l'intérieur du continent, toujours pour garantir l'interland, donc tout ce qui permettait d'approvisionner les ports, et également pour assurer la sécurité de leur présence et leur colonie en Inde, car l'intérieur de l'Inde était très peu sûr. Il y avait notamment des menaces de bandits et d'états souverains qui voyaient d'un très mauvais œil la présence britannique dans le décan.
Autrement dit, il fallait protéger un peu les frontières. Alors ça suppose bien entendu, comme dans les autres colonies, mais plus peut-être que dans les autres colonies, une présence importante de civils et de militaires venus d'Angleterre avec leurs familles, une présence immortalisée dans de nombreux films à la gloire de l'Empire, dont la très célèbre charge de la Brigade Légère.
Une bonne tasse de thé bien chaud vous remettra, ma chère. Encore une tasse ?
Non, merci.
Ma chérie, vous souvenez-vous de ce fameux bal à Calcutta ?
Le capitaine Vickers, sir. Content de vous voir, Vickers.
Bonjour, mon général.
Vous avez fait bon voyage ?
Vous êtes absurde, Benji. On ne fait pas de bon voyage, vous êtes.
Patrouille ! Halte ! Ordonnance ! Je viens vous rendre compte de ma mission, mon colonel.
Très bien.
Eh bien, mon colonel, à Colac, nous avons rencontré une caravane qui passait, celle d'un marchand hindou. Il revenait de chez les Suristani. Il dit savoir de sources sûres que ces derniers se préparent à nous attaquer.
Lui nous attaquer, ce serait une telle folie.
Suratian est assez bien renseigné pour savoir qu'une attaque sur Chukoti mettrait le feu à toute la frontière.
Vickers, vous ferez défiler vos hommes en ordre de marche, qu'ils soient prêts pour un départ immédiat.
Non, c'était la charge de la Brigade Légère, un film à la gloire de l'Angleterre, aux Indes, aussi ce qui se passe pendant la guerre de Crimée. Alors l'Inde dont Victoria, vous l'avez dit, Philippe Chassaigne, devient impératrice en 1877, on a du mal à comprendre quand même comment, avec 150 000 fonctionnaires et soldats, l'Angleterre ait pu conserver les Indes, comme on les appelait, pendant plus d'un siècle. Il y a plus de 300 millions d'habitants déjà à cette époque-là, au 19e.
Oui, alors cela s'explique par quelques éléments assez simples. Il y a tout d'abord la supériorité militaire des Anglais. Il y a...
En armement, notamment.
Voilà, la supériorité militaire, supériorité en armement, qui n'est pas un élément d'ailleurs absolument irréversible. C'est-à-dire qu'en 1857, lors de la révolte des Sipaï, la domination anglaise en Inde a failli être renversée par des insurgés qui n'étaient pas très bien armés, mais qui avaient pour eux l'avantage du nombre. Néanmoins, la supériorité de l'armement, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que finalement, il n'y avait pas à ce moment-là de conscience nationale indienne. La conscience nationale indienne, c'est quelque chose qui est de création très récente. Même les insurgés de la mitrinie des Sipaï n'étaient pas du tout persuadés qu'ils se révoltaient contre des oppresseurs au nom d'une nation qui serait assujettie.
Les Sipaï, il faut le rappeler, c'était des combattants autochtones, justement.
Voilà, ce sont les auxiliaires de l'armée des Indes.
Les auxiliaires indiens et qui se révoltent en 1857.
Absolument. Et donc une révolte qui a failli jeter à bas la domination anglaise sur l'Inde. Mais donc l'Inde, on pourrait dire, pour paraphraser ce que Metternich disait de l'Italie en 1815, on pourrait dire que l'Inde au 19e siècle, c'est une expression géographique. Et ce sont les Anglais, d'ailleurs, qui, sur le plan économique notamment, en créant des infrastructures, routes, voies ferrées, canaux, etc., qui ont vraiment fait de l'Inde une entité géopolitique de premier plan. Mais cela, c'est un processus qui est très progressif. Et de conscience nationale indienne, on en voit apparaître qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, et c'est après la Première Guerre mondiale qu'elle va s'affirmer.
Vous vous rappelez, Philippe Chassaigne, dans votre livre aussi, que l'Inde était tellement importante, au fond, qu'elle a conditionné tout l'expansionnisme britannique au XIXe siècle, en tout cas presque tous. C'est pour garder soit les frontières de l'Inde, soit les routes des Indes, que les Anglais sont allés en Birmanie, au Pakistan, qu'ils ont voulu contrôler toute la partie orientale de l'Afrique, de l'Égypte, hein, avec le canal de Suez sur la route des Indes, et toute la côte est de l'Afrique. C'est vraiment très lié. L'Inde, au fond, c'est effectivement la colonie principale. Et cela supposait aussi un effort militaire important, tant sur le plan des hommes, on en a parlé, que de la flotte. La flotte était la première du monde parce que l'Empire était le plus grand du monde.
Absolument. Et cela, c'est un élément qui est tout à fait décisif dans la position dominante, super dominante, même pourrait-on dire, de la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Si vous voulez, c'est un peu dans la position des États-Unis aujourd'hui. Dès 1815, la Grande-Bretagne, c'est une thalassocratie, dans une puissance dont un pays dont la puissance repose exclusivement sur sa marine, la Royal Navy, qui est la première marine mondiale. Elle garde cette position, évidemment, tout au long du XIXe siècle et jusqu'en 1914.
Et une flotte à laquelle il fallait bien sûr donner des ports sur tous les océans du monde, comme le port de Hong Kong, arraché aux empereurs chinois par le traité de Nankin en 1842.
Nous voulons un accès libre en permanence à 5 de vos ports de commerce, mais avant tout, nous voulons l'île de Hong Kong.
Notre clan dynastique King n'a jamais cédé aucun de ses territoires.
Mais elle va le faire.
Nous pensons que Hong Kong est le port le mieux situé dans toute l'Asie du Sud-Est. Et comme on le veut, on l'aura.
Nous investirons Hong Kong, disons, dans une dizaine de jours.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, l'Empire colonial britannique.
Et c'était évidemment The God Save the Queen qui a été joué pendant 150 ans à Hong Kong, puisque Hong Kong a été restitué à la Chine en 1997. Alors ça, c'était l'élection de Hong Kong, c'est quand même singulier. C'est à la suite d'une guerre dont les motivations étaient assez sordides, c'était la guerre de l'opium. C'est parce que les Britanniques voulaient forcer les Chinois à acheter leur opium.
Oui, alors il faut se garder néanmoins de tout jugement moral a posteriori. Au XIXe siècle, l'opium, c'est une marchandise comme les autres. Au XIXe siècle, l'opium, les produits opiacés sont en vente libre en Grande-Bretagne. Hein. Ce n'est pas considéré comme étant une drogue, un stupéfiant. Et il n'y a pas cette connotation négative qu'on a aujourd'hui à propos de l'opium. Il faut voir également que dans les années 1840, l'Empire chinois était tout à fait disposé à vendre ses produits aux Britanniques, mais en revanche, le gouvernement de l'empereur s'opposait à ce que les produits britanniques soient vendus en Chine. Ce qui fait que cette situation posait des problèmes pour la balance commerciale des Britanniques avec la Chine, et l'un des éléments qui était sur lequel on comptait pour redresser cette balance commerciale, c'était l'opium, d'où la guerre de l'opium pour permettre la vente d'opium en Chine.
Enfin, c'est pour le commerce, hein, quand même. Je ne sais plus qui disait, au fond, il suffisait qu'il y ait du coton, de l'opium en l'occurrence, quelque part, parce que l'opium que les Britanniques vendaient, ils le cultivaient aux Indes, il suffisait qu'il y ait de l'or aussi pour qu'on y trouve brusquement des Anglais. Donc c'est quand même une des principales motivations, notamment celle qui va aboutir, par exemple, à la colonisation de l'Afrique du Sud à partir du Cap. Philippe Chassaigne.
Oui, alors la colonie du Cap.
Parce qu'on trouve alors que les Anglais font de l'Afrique du Sud une colonie.
Oui, enfin, la colonie du Cap était une colonie hollandaise que les Britanniques ont occupée pendant les guerres contre la France révolutionnaire et ses alliés. Et c'est ensuite, effectivement, que les Britanniques, partant de cette tête de pont de la colonie du Cap, ont pénétré vers l'intérieur de l'Afrique australe. Et il est évident que la découverte de mines d'or et de mines de diamants a joué un rôle très important. Les Britanniques sont, au XIXe siècle, la nation commerciale par excellence. Donc, partout où il y a un profit à faire, on va trouver un commis voyageur britannique.
Alors, l'Afrique du Sud, il faut le rappeler, était un dominion. Alors, ce qui est frappant aussi quand on vous lit, c'est la variété des statuts des colonies. Elles n'ont pas toutes le même statut. Il y a l'Inde qui a un cas part, avec la Im Victoria, impératrice des Indes, mais il y a aussi des protectorats, il y a les colonies de la couronne, et puis alors il y a les colonies de peuplement, hein, qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Canada et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des colonies où on installe des colons à proprement parler. En Inde, il y a très peu d'Anglais, en revanche, en Afrique du Sud, en Australie encore plus, hein, ça c'est ce qu'on appelle les dominions. C'est très hétérogène cet empire dont on parle.
Oui, alors cette hétérogénéité est due au fait que les Britanniques ont toujours été méfiants vis-à-vis des grandes structures fédérées ou fédératives, et par conséquent, en raison aussi de l'aspect très progressif et pragmatique de leur de l'expansion de leur empire au XIXe siècle, il y a cette coexistence de différentes structures. Donc si on prend très rapidement, il y a tout d'abord les Indes, donc qui sont un empire, effectivement, après 1877, donc administré directement par Londres. Ensuite, le deuxième niveau sont les dominions qui sont des territoires peuplés par une population blanche, avec pas forcément majoritaire, qu'en Afrique du Sud, la population majoritaire sont les Noirs, mais évidemment, ils n'ont pas de droits politiques. Donc les dominions, la population blanche jouit de droits politiques comparables à ceux des Britanniques. Il y a un gouvernement qui est responsable devant un parlement bicaméral, élu par les Blancs, bon, les hommes évidemment, les femmes n'ayant pas le droit de vote. Et les dominions sont quasi indépendants, ils ne le sont cependant pas dans la mesure où c'est le souverain britannique qui est le chef de l'État. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis en Afrique du Sud bien sûr, puisqu'elle est devenue république en 1961. Et puis ensuite il y a les colonies de la couronne, qui sont elles administrées là encore directement par la couronne, mais avec un gouverneur nommé par Londres. Et puis après il y a les protectorats, donc ce sont des États théoriquement indépendants qui bénéficient de la protection militaire de la Grande-Bretagne. Bon, on peut évidemment comprendre ce que le grand frère ou le protecteur attendait d'eux, c'est une parfaite loyauté sur le plan économique.
Alors des statuts donc très différents.
Et diplomatiques,
Et des statuts très différents, et puis aussi des colonies séparées les unes des autres, d'où la volonté justement de rendre homogènes, par exemple, les colonies africaines. Hein. C'est ce que Cecil Rhodes, gouverneur du Cap, fondateur de la Rhodésie, a appelé l'Afrique du Cap au Caire. Alors justement, cette Afrique, on n'en connaît absolument pas tellement l'intérieur au milieu du 19e siècle, et le rôle ce sera le rôle justement de découvrir cet intérieur, le rôle d'un héros très célèbre de l'impérialisme britannique, David Livingstone.
What keeps the white man away from Africa? Fear.
Qu'est-ce qui éloigne les Blancs de l'Afrique? La peur.
Fear of a blank space.
La peur de l'inconnu, la peur d'un espace vide sur la carte. Remplissez ce vide, chassez cette peur, donnez au monde une carte juste et précise de l'Afrique et le continent noir aura vécu. Alors d'autres viendront, missionnaires, mais aussi médecins, enseignants, pionniers, qui apporteront la civilisation et chasseront les négriers de ce continent qui n'a jamais connu la bienveillance ou l'espoir. Vous n'êtes pas vraiment ce que j'appelle un missionnaire, Dr. Livingstone. Il est possible de servir Dieu sans perdre de vue la dimension humaine. Excusez-moi maintenant, c'est l'heure du catéchisme.
C'était encore un extrait de film, Stanley Livingstone. Livingstone, la figure héroïque d'une colonisation qui ne l'a pas toujours été, Philippe Chassaigne. Vous citez ces héros, justement, qu'on met en valeur à l'époque dans l'Empire britannique.
Absolument, ces héros sont font partie des figures les plus répandues, leur vie est très, très répandue dans la littérature populaire, ce sont des épisodes de leur existence qui illustrent les livres d'école, et ils participent à cette mystique de l'Empire, cette mystique impériale qui est très forte dans la seconde moitié du 19e siècle. Tout petit anglais, enfin tout petit anglais ou écossais, tout petit britannique partant, allant à l'école, eh bien avait dans la salle de classe la carte une carte du monde sur laquelle les possessions britanniques étaient colorées en rouge, et on a de nombreux témoignages, des souvenirs, etc., qui montrent bien que les petits-enfants éprouvaient une très grande fierté à l'idée d'appartenir à un peuple qui dominait ainsi près du quart de la superficie des terres émergées.
Livingstone, il faut le rappeler, qui a été envoyé découvrir l'intérieur de l'Afrique par une mission, la London Missionary Society. Vous rappelez aussi que les missionnaires sont très présents et très importants dans cette colonisation.
Tout à fait. Il y a une expression anglaise qui dit « le commerce suivait le drapeau, trade followed the flag ». En fait, il n'y avait pas que le commerce qui suivait le drapeau, il y avait aussi les missionnaires, et parfois même les missionnaires précédaient le drapeau et le commerce. Le 19e siècle voit en Grande-Bretagne un essor des missions outre-mer, parce que des sociétés missionnaires donc se créent pour aller évangéliser les populations qui demeurent païennes
et lutter contre l'esclavage aussi.
Voilà, exactement. Et c'est une autre dimension. Il y a l'évangélisation, donc à apprendre à lire et écrire, convertir les populations, souvent des conversions à la chaîne dont on peut se demander ce qu'elles représentaient exactement, mais peu importe. Et il y a donc aussi le fait de vouloir lutter contre l'esclavage. Les Britanniques ont aboli en 1803 l'esclavage dans toutes leurs possessions. En 1833, ils ont interdit la traite négrière.
Alors la colonisation anglaise avait ses héros, ses missions, elle avait aussi ses théoriciens. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Au XIXe siècle, l'anglais est convaincu de sa supériorité. Citons d'abord cette phrase célèbre de Charles Darwin en contemplant le port prospère de Sydney en Australie. « Je me félicite d'être né un Anglais, un Englishman ». Alors, de manière générale, la Grande-Bretagne est convaincue de sa mission civilisatrice, notamment dans sa lutte contre l'esclavage. Par exemple, en 1855, voilà comment Livingstone présente ses marins anglais à des Africains. « Voici mes compatriotes, dit-il, envoyés par notre reine dans le but d'arrêter le commerce de ceux qui achètent et vendent des hommes noirs ». Alors pourtant, cette œuvre civilisatrice n'empêche pas les peuples soumis de se révolter parfois, par exemple, après la révolte des Sipayes en Inde en 1857. « Au plus profond d'eux-mêmes, ces Indiens sont des enfants et des sauvages », écrit le journal The National Review. « La civilisation n'est sur eux qu'un vernis qui tombe aussi facilement qu'un vêtement ». Mais c'est surtout dans le dernier quart du XIXe siècle que se forge en Angleterre une véritable idéologie impériale, avec ses théoriciens Charles Dilke, Anthony Froude ou John Seeley. Dans les idées de ces théoriciens vont être reprises notamment par un homme politique, Joseph Chamberlain, qui fut entre autres ministre des colonies. Alors son idée phare, dit-il, c'est la grandeur du destin réservé à la race anglo-saxonne, à cette espèce fière, dit-il, obstinée, sûre d'elle-même, résolue, qu'aucun changement de climat ou d'environnement ne peut altérer, et qui est sans aucun doute promise à être la force prédominante dans l'histoire future et la civilisation du monde. Et même la culture populaire, hein, vous le disiez, Philippe Chassaigne, est tout imprégnée de cette mystique impériale. Voilà par exemple comment Henty, un auteur de livres d'aventure pour jeunes garçons, magnifie la conquête de l'Inde. C'est, dit-il, le courage, l'endurance et l'amour obstiné de l'aventure et du danger qui ont fait de nous les maîtres de l'Inde. Et même quand les petits Anglais apprennent à lire, ils apprennent aussi qu'ils sont les meilleurs. Alors un abécédaire de 1899 dit à la lettre C, « C comme colonie ». À juste titre, nous sommes fiers que de toutes les grandes nations, la Grande-Bretagne soit celle qui en ait le plus. Alors l'idéologie impériale eut aussi ses grands écrivains, le plus célèbre d'entre eux, Rudyard Kipling, l'auteur bien sûr du livre de la jungle ou de Kim, mais aussi d'un poème, Le fardeau de l'homme blanc, qui va devenir l'emblème du colon anglais, sûr de sa supériorité et de sa mission. Homme blanc, reprends ton lourd fardeau, envoie au loin tes enfants pour qu'ils servent aux besoins des captifs, ces peuples sauvages, moitié démons, moitié enfants.
Tous ces textes ont un point commun, Philippe Chassaigne, c'est d'abord l'orgueil national qui est flatté par cette colonisation, mais aussi qui va jusqu'au mythe de la supériorité de l'homme blanc. Il y a du racisme dans ces textes, à l'évidence.
Absolument. Et il y a du racisme au sens de croyance que le monde est composé de races différentes et inégales, et qu'au sommet de cette hiérarchie se trouve la race blanche, et plus précisément
les Anglais.
La race anglo-saxonne. La race anglo-saxonne. Car en fait, aux yeux notamment de Joseph Chamberlain, anglais, enfin britannique ou américain ou canadien, c'est, comme ils le disent, cette race anglo-saxonne, hein, au sens, le terme de race est utilisé au sens presque zoologique, on peut dire, hein, c'est l'espèce comme il y a des ovins, etc. Donc c'est un premier point. Mais le terme de race est utilisé de façon très courante au XIXe siècle, et ce n'est que au début du XXe siècle, évidemment dans les années 30, qu'il y a les dérives que l'on connaît. Oui. C'est un terme qui est utilisé sans aucune mauvaise conscience aucune, et d'une façon qui est tout à fait spontanée.
Oui, mais ça a servi, vous le dites, vous le rappelez, à justifier des massacres. Il y a eu la révolte des Sipayes, on l'a rappelé. Il y a eu l'élimination tout de même de populations autochtones, comme les aborigènes d'Australie, comme les Maoris en Nouvelle-Zélande, et même d'ailleurs des Blancs, les Afrikaners, pendant la guerre des Boers, à la fin du XIXe siècle, ont été parqués dans ce que les Anglais appelaient eux-mêmes des camps de concentration.
Oui, mais là, c'est pareil, il faut se méfier des anachronismes. Les camps de concentration sont des camps où l'on va concentrer des populations dont on craint qu'elles ne procèdent à des actes d'hostilité envers les soldats britanniques. Il est bien évident que les civils Afrikaners pouvaient être tentés de soutenir les armes à la main, les armées Boers. Donc on procède aux camps de concentration. concentration qui n'ont évidemment... On crée ces camps de concentration qui n'ont évidemment rien à voir avec les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des camps de prisonniers où l'on va regrouper pour un certain temps des populations civiles. Et d'ailleurs, la guerre des Boers finit en 1901 et c'est 9 ans après, 1910, que les habitants d'Afrique du Sud obtiennent des droits politiques très étendus, que l'Afrique du Sud, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est devenue un dominion.
Alors cet empire va disparaître au XXe siècle, on n'a pas le temps de le développer, mais est-ce qu'on peut dire que ça a été une aubaine ou au contraire le fardeau de blanc, comme disait Kipling, parce que vous dites une chose, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'historiens ont longtemps dit, c'est l'Empire, c'était vrai pour l'Empire français, c'est un prélèvement sur les populations, sur les peuples, sur les pays que l'on colonise. Or, vous semblez dire qu'au contraire, ça n'a pas été une bonne affaire sur le plan économique, qui était tout de même une des justifications de l'Empire, Philippe Chassaigne.
Oui, François Crouzet, le grand historien de la Grande-Bretagne, dit dans un de ses articles que l'Empire a été une bonne affaire pour les colonies qui en ont bénéficié pour leur décollage économique. Et il est certain que même encore aujourd'hui, l'Inde, une grande partie de ses atouts proviennent de la colonisation britannique. Bon, on n'a pas le temps de développer, mais enfin, il y a tout un chapitre dans mon ouvrage où chiffres à l'appui, car l'historien doit raisonner de temps en temps avec des chiffres. On voit très bien quelle a été l'importance, mais une importance relative des colonies pour l'économie britannique au XIXe siècle. Et l'idée d'une métropole vampirisant les colonies, c'est quelque chose qui relève davantage de la polémique que de l'analyse historique.
Il y a des gens qui font des affaires quand même.
Absolument. Hein? Je n'ai pas dit le contraire non plus.
Et puis alors il y a tout un orgueil national dont vous parlez. On a l'impression qu'il n'y avait presque pas d'adversaires du colonialisme en Angleterre, alors qu'il y en avait en France au XIXe. Là, il y en a très peu.
Effectivement, il y en a très peu. Les seuls adversaires du colonialisme se situent à l'aile gauche du parti libéral britannique, ce qu'on appelle les radicaux, qui eux considéraient que l'Empire coûtait trop cher et qu'en fait toutes les sommes que l'on dépensait pour conquérir des régions, pour les défendre ou pour la flotte, y auraient été bien mieux utilisées si elles avaient été affectées à des réformes sociales en Grande-Bretagne.
Merci Philippe Chassaigne. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. Donc La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours. Il y a deux chapitres justement sur l'Empire colonial. Un livre publié chez Armand Collin dans la collection U, qui est une collection pour étudiants. Vous êtes également l'auteur d'Une histoire de l'Angleterre, des origines à nos jours, publié chez Flammarion, et de Buckingham Palace, fin de siècle, la monarchie à l'épreuve, publié chez Privat. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Stanley Livingstone de Henry King, La charge de la brigade légère de Michael Curtis et La guerre de l'opium de Xie Jin. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Étienne Mishka et Patrick Henry, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous serons encore dans l'histoire coloniale avec celui qui a proclamé et obtenu l'indépendance du Vietnam, Ho Chi Minh, mais tout de suite à 14h30, très précis, sur France Inter, celle qui n'a pas eu besoin d'Ho Chi Minh pour obtenir son indépendance.